Ce jour-là, le soir venu, les disciples prenaient place dans une barque de pêcheurs, l'âme légère et l'esprit serein, obéissant au maître qui leur avait demandé de mettre le cap vers l'autre rive. Tout semblait calme alentour, mer calme et peu agitée, disait l'un d'eux, qui s'y connaissait bien en matière de navigation, vu qu'il exerçait le dur métier de marin-pêcheur. C'était une belle soirée de pétole, comme on dit dans la langue des marins. Pas un souffle de vent, pas la moindre brise, bref, un temps propice pour prendre le large. Or voici que soudain, le ciel se fit bas et lourd, tandis que s'élevait un violent tourbillon de vent. Déjà, les vagues se jetaient dans le bateau, de sorte qu'il s'emplissait, suscitant la terreur des disciples qui se voyaient déjà périr, engloutis corps et biens dans ce terrifiant chaos. Et voici que les cris des disciples se mêlaient aux hurlements d'enfer des éléments déchaînés. Jésus se dressa face à ces vents impétueux, leur ordonnant avec autorité de se taire. Puis, se tournant vers ses disciples, il leur lança sur un ton du reproche : « Mais où donc est votre foi ?» Ainsi va la vie, chers amis. Quand tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, on fait de beaux et de pieux discours sur la foi. Mais quand on sent que son monde est sur le point de chavirer dans la tourmente et dans l'effroi, c'est là vraiment qu'on peut commencer à expérimenter la valeur de notre foi. À ce sujet, j'aime bien l'histoire qu'on raconte au Moyen-Orient, qui parle d'un homme réputé pour sa grande sagesse, qui décida un jour d'aller faire un long voyage. Il prit place sur un navire en partance pour le lointain. Et le capitaine, ayant entendu parler de sa sagesse, l'invita à sa table. Au fil de la discussion, le sage demanda à son hôte : « Mon capitaine, avez-vous déjà fait de la philosophie ?»« Oh, certes non. C'est que j'en vois pas vraiment la nécessité, » rétorqua le vieux loup de mer. « Alors, croyez-moi, » dit le vieux sage, « si vous n'avez pas fait de philosophie, eh bien, vous avez perdu la moitié de votre vie. » Le temps passa, car tout passe ici-bas, et voici que soudain une furieuse tempête se leva, si violente que le navire chavira. Équipage et passagers furent livrés à l'impétuosité des vagues. Apercevant au loin le sage qui essayait tant bien que mal de se dépatouiller, le capitaine lui lança « Maître, avez-vous appris à nager ?»« Que non, » répondit le philosophe. Alors dit le marin « Vous allez perdre maintenant toute votre vie. » Cette bien triste histoire qui nous montre que derrière les rêves se cache parfois un cauchemar. Une histoire qui peut nous aider à comprendre au mieux la question que Jésus pose à ses disciples. « Mais qu'en est-il donc de votre foi ? Où est donc votre foi ?» En fait, on aurait tendance à répondre, si on faisait un sondage, à la sortie de nos cultes, que la foi, qu'elle soit catholique, protestante, réformée, orthodoxe ou évangélique, que la foi, c'est avant tout l'adhésion à des rites, à des dogmes, à des systèmes philosophiques bien rangés dans des catéchismes. Certes, me direz-vous, il faut bien un certain nombre de règles et de coutumes pour que l'Église reste au milieu du village. Cependant, la foi telle qu'elle est comprise dans l'Ancien Testament et dans les Évangiles n'est pas le fruit d'une réflexion académique, mais elle naît toujours à la suite d'un appel qui nous est adressé au plus intime de notre être. À peine appel à quitter ce monde rassurant de nos certitudes pour partir avec confiance vers des horizons toujours nouveaux, sans jamais vraiment savoir de quoi sera fait ce monde jusqu'alors inconnu que nous allons découvrir. À ce sujet, le modèle biblique du croyant, c'est celui que Paul appelle notre Père dans la foi, Eh bien, c'est Abraham. Écoutons ce que l'Écriture dit à ce sujet. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham, qui ne s'appelait pas encore Abraham, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Notons en passant que l'appel de Dieu ne connaît aucune limite d'âge. Et je peux vous assurer, de par ma propre expérience, qu'on peut encore se mettre en mouvement quand on a atteint l'âge canonique de 75 berges, comme le chantait jadis Maurice Chevalier. Dans l'Évangile, comme dans l'Ancien Testament, et plus particulièrement dans ce récit de la tempête apaisée, la foi est avant tout la réponse vivante et concrète du disciple à l'appel que le Seigneur lui adresse, appel à larguer les amarres, à lâcher prise, à s'embarquer avec confiance à sa suite vers des horizons toujours nouveaux. « Passons vers l'autre rive, » dit le maître. Et les disciples partent à sa suite, confiants et sereins, sans jamais savoir ce qu'ils verront là-bas. Ils partent comme jadis Abraham partait vers l'inconnu. Je pense quant à moi, et j'espère que vous serez de mon avis, qu'il est toujours passionnant de partir à la découverte d'un monde inconnu. Un monde, le monde de nos rêves de paix, de justice, de beauté, que Jésus évoque dans les plus belles pages de nos évangiles. C'est dans ce monde éveillé que peut naître la foi. À ce propos, on pourrait évoquer ici Saint-Exupéry, le père du Petit Prince, qui s'est si bien éveillé chez ses auditeurs le rêve d'un monde nouveau qui sommeille en chacun de nous. Voici ce que disait Saint-Exupéry. « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas des hommes et des femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir de la mer. » Dans l'Évangile, il faut bien le répéter, tant il est vrai que 2000 ans de christianisme nous ont parfois éloignés de la parole libératrice du Christ. La foi n'est jamais comprise comme une charge pesante de rites, de dogmes, de règles morales contraignantes, mais avant tout, la réponse à un appel qui peut naître dans nos cœurs, appel à découvrir un monde toujours nouveau, appel qui se réalise dans ce rêve. Matthieu nous dit que cela est possible, et c'est possible à chaque être humain, vu que le fardeau que Jésus nous laisse est un fardeau léger. Comme l'écrivait Matthieu dans son évangile, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez avec moi le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » En fait, dans l'évangile, notre cheminement de croyant commence souvent dans un rêve. Rêve que tout homme, homme ou femme, fait un jour de sa vie, rêve si souvent associé à la mer, comme le dit si bien Saint-Exupéry, ou comme le chantait Charles Trenet dans cette chanson que vous avez certainement entendue dans votre jeunesse, qui célèbre la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs aux reflets d'argent, la mer aux reflets changeants sous la pluie. Mais le récit de la tempête apaisée nous enseigne aussi que la vie du croyant n'est pas un long fleuve tranquille. À chaque instant peut naître le péril et l'effroi. Oui, à chaque instant. Et c'est bien à ce péril que les disciples sont exposés, un peu comme ce navigateur du Vendée Globe, pris dans la tourmente, qui s'écriait le 5 décembre dernier après avoir passé le cap de Bonne-Espérance, « La mer est un bouillon, ça vient dans tous les sens du bateau, ça passe par-dessus, par-dessous, impossible de trouver le bon angle. Je fais des pointes de 30 nœuds et le bateau se fracasse dans la vague, il souffre et c'est horrible. À chaque fois, il tape et je me demande si le bateau va résister. C'est un carnage, dit-il, un vrai carnage. En mer comme sur la terre d'ailleurs, le danger peut toujours survenir à n'importe quel moment. » Et le récit de la tempête apaisée ne cherche pas à cacher la poussière sous le tapis. Quand je lis ces lignes, me reviennent à l'esprit ces vers de Victor Hugo qu'on nous faisait apprendre jadis par cœur. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis heureux pour des courses lointaines et dans ce morne horizon se sont évanouis, combien ont disparu dure et triste fortune. Cependant, il en est qui vous diront que cette mise en scène est bien exagérée et que ce tout petit lac ne peut pas présenter de tels périls. Une tempête dans un verre d'eau. À ce propos, j'aimerais vous dire que jadis, dans une autre vie, dans ma jeunesse, j'embarquais pendant un an sur un bateau comme pilotin et on faisait du cabotage le long des côtes africaines. Et puis on a eu des tempêtes terribles de force 7, de force 8 au large du Cap-Vert. Puis quand je suis arrivé, j'étais pasteur à Thun, quand je suis arrivé à Thun, je me suis dit, oui, ça c'est des marins d'eau douce, peut-être vous avez aussi des tempêtes ici sur votre lac. Eh bien, je me suis dit, c'est des marins d'eau douce. Et puis, mon voisin m'a proposé de faire une balade en bateau et tout d'un coup, les vagues sont venues et j'ai cru que ça allait être ma dernière heure. Et j'ai bien compris que sur nos petits lacs aussi, on peut avoir des trouilles aussi belles que sur de grands bateaux. Et ici, il s'agit de bien repérer le décor. Le lac de Galilée dont il est question mesure 20 km de long pour 10 km dans sa largeur. Et le problème, c'est qu'il se trouve à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer et qu'il est entouré de hautes collines. Toutes les conditions sont donc réunies pour provoquer de violentes tempêtes. Et je peux m'imaginer que les disciples qui connaissaient bien les dangers de ce lac de Galilée n'ont pas vécu cet épisode comme une tempête dans un verre d'eau. Et voyons, et pendant que la tempête menace d'engloutir corps et biens, les disciples et leur barque, que fait le maître d'équipage? Eh bien, nous l'avons entendu dans ce passage que nous a si bien lu M. Jacquot. Eh bien, que fait le maître d'équipage? Le maître d'équipage, il dort. Il dort, mais son sommeil n'est pas une fuite de la dure réalité, comme le sommeil de Jonas qui se réfugie dans les méandres de l'inconscient, abandonnant l'équipage à son triste sort. En fait, Jésus ne veut pas nous épargner les dures épreuves de la vie, car l'épreuve fortifie notre foi, et Jésus le sait très bien. Le sommeil de Jésus, c'est plutôt celui de la bien-aimée du roi Salomon dans le Cantique des Cantiques. Quand la Sulamite dit à son amant, « Je dors, mais mon cœur veille. » Un très beau passage qui peut nous parler ici du sommeil de Jésus dans la tourmente. « Je dors, mais mon cœur veille. » Ce sommeil, c'est plutôt celui d'une mère qui ne cesse de veiller sur son enfant. C'est pourquoi l'Évangile tient à nous enseigner que face aux vagues qui nous frapperont, aux éclairs qui déchireront le ciel et face à la fureur des vents, nous ne serons jamais seuls dans l'épreuve, car près de nous, tout près même, quelqu'un sera toujours là pour nous secourir, pour nous offrir une main secourable. Sur cette barque où Jésus nous invite à prendre place, on pourrait voir figurer le blason de Paris, un emblème que vous avez certainement vu à l'occasion des Jeux Olympiques. Sur ce blason figure une nef, voile au vent, flottant sur l'eau, l'eau pas toujours très propre de la Seine, malgré ce que disait Madame la maire. Un bateau où figure la devise de Paris en latin, Fluctuat nec mergitur. Elle est secouée par les vents, mais elle ne sombre pas. Eh bien, telle est l'embarcation où nous sommes invités à prendre place pour partir avec Jésus vers des horizons toujours nouveaux. C'est un peu cela l'Église aussi. Une barque où nous voyons ce blason, elle est prise par les flots, mais elle ne sombrera pas. Soyons confiants, même dans l'épreuve et surtout dans l'épreuve, car le Maître sera là tout au long du voyage pour nous soutenir dans sa main. Et même si nous ne le voyons pas, même si nous ne sommes pas persuadés qu'il sera toujours présent, même dans cette condition, nous entendrons une voix qui nous dira « Passons sur l'autre rive ». Cela, Rilke a su nous le rendre dans un poème qui est très beau. Quand nous voyons que tout va tomber autour de nous, eh bien, nous pouvons avoir l'assurance qu'une main nous porte, une main secourable vient à nous. Je vous lis ce poème de Rilke en conclusion. « Les feuilles tombent, tombent comme si au loin, se fanaient dans le ciel de lointains jardins. Elles tombent avec des gestes qui se refusent, et dans les nuits tombe la lourde terre. Il y a toutes les étoiles dans la solitude. Nous sombrons tous, nous tombons. Et cette main-là tombe. Et vois, cette chute est dans toutes les autres mains. Et pourtant, il en est un qui retient dans sa main cette chute délicatement, éternellement, délicatement, éternellement. Amen.